fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faiblit, et la cendre blanchit la braise. J'ai bu l'été comme un vin doux, j'ai rêvé pendant ce mois d'août dans un château rose en Corrèze. Fadine de la tristesse oublie, le bruit du cœur brisé faiblit, et la cendre blanchit la braise. Qu'était-ce qui faisait soudain un sanglot lourd dans le jardin, un sourd reproche dans la brise? C'est comment le noir secret de mon tourment, à son tour l'ombre s'y demande. Je cherchais à n'en plus finir cette douleur sans souvenir, quand parut l'aube de septembre.
Salut les amis, c'est Isabelle et Didi. On a démarré avec Feu Chatterton. Bon, j'ai fait une tentative la semaine dernière, vous avez bien entendu, si vous étiez là. Mais trop d'émotions, de précipitation, et je suis arrivée les mains vides. Et pourtant, j'avais le cœur plein, je vous le promets. Bon, on recommence. Je rempile. C'était encore incertain il y a peu, mais déjà, vous me manquiez. Ça paraît idiot de dire ça quand on fait de la radio, mais c'est vrai. Je sais que je ne parle pas dans le vide et je sais la chance que nous avons tous, vous et moi, d'avoir une radio libre, ici, dans les Cévennes. Vu les messages d'amis d'un peu partout, je crois qu'on a raison de profiter de tout ça. Bon, Radio Escapade a changé pendant l'été. Je crois que Fabien est un peu content d'avoir un petit studio pour lui, alors qu'il était toujours en déséquilibre, presque. C'était de la haute voltige. Maintenant, le matos s'améliore. Et je pense que vous le sentirez. Quoique, sa voltige était réussie en général. Hein. Bon, voilà, j'ai craqué. L'envie de revenir, de ne pas vous quitter. Le plaisir de vous dire bonjour à tous. À Corinne, à Pépé, à Scarlett, à Sia, à Igor, à Maya, à Héloïse, à Delphine, à Balthazar, à tous, même ceux dont je ne connais pas le nom. Alors après un bel été comme a été le vôtre, j'espère, un été qui a rempli ma maison d'ado, avec des matins silencieux, des repas joyeux, tous ces ados disparaissaient dans les bois l'après-midi, je les soupçonnais d'y faire la sieste, mais il paraît qu'ils allaient à la rivière. Des bières plein les poches. Hein. Voilà. Dans notre petit quartier de Cévennes, quelques maisons, quelques yourtes qui font notre village dispersé dans la montagne. Eh bien, j'ai passé l'été avec une douzaine d'ados, mes petits-enfants, leurs cousins, les voisines, devenues cousines avec le temps d'ailleurs. Voilà. Et ça marche, les ados. Je peux vous le dire, ça marche, je vous le jure. Ils partaient, ils revenaient, ils faisaient des kilomètres. Ils revenaient toujours pour dîner ou pour manger, parce que ça mange un ado. Et puis ça joue aux cartes et aux dés, et ça tchatche jusqu'à 5 heures du mat sous les arbres. Voilà, vous avez une idée de mon été. Encore un bel été joyeux, un peu fou et chaud, mais vraiment chaud. On a économisé l'eau, on l'a partagée avec les citronniers, la lavande, le romarin. Et puis on est beaucoup allé se baigner dans le Vidourle. Voilà, c'était un bel été, j'espère qu'il a été beau pour vous aussi et que l'année qui suit sera à la hauteur. Je crois qu'il va falloir qu'on ait des forces et de l'imagination. Moseka.
Say all the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart. To be me, then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing. I wish I could do
Nina Simone avec le titre I wish I know how it would feel to be free.
Eh bien, on va commencer par des petites nouvelles comme ça. J'ai lu un article qui m'a bien secoué de Libé il y a pas longtemps. Ça s'appelait Macron et Borne, petit cousin de Pinochet. Ça vous dit quelque chose? Eh bien voilà, c'était formidable et plus si courant en politique d'avoir de la mémoire et le sens de l'histoire. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon en a. Et quand il s'agit d'Amérique latine, comme c'est cher à son cœur, eh bien le premier des insoumis, admirateur de toutes les tentatives révolutionnaires et démocratiques progressives de la courte histoire sud-américaine, eh bien sa sensibilité d'homme de gauche est à fleur de peau. Mais avoir de la mémoire, visiblement, ne prémunit pas contre l'anachronisme ou l'amalgame douteux. Alors voilà l'histoire. Jean-Luc Mélenchon nous en a encore fait un bien embarrassant. Lundi 11 septembre, 50 ans jour pour jour après le renversement du président socialiste chilien Allende, par des putschistes, par pro-Pinochet. Il a tout simplement affirmé que c'est sur la base du coup d'État de Pinochet que les Chicago Boys ont pu commencer leurs expériences sur le dos du peuple chilien et que les ayant menées ensuite, elles ont été répandues dans le monde entier. Ce que nous sommes en train de célébrer, c'est le début de notre lutte contre cette politique et nous la continuons ici même contre ceux qui la prolongent. Macron, Borne ont pour nous le même visage bestial commencé à Santiago du Chili. Voilà, là, là, là. Je ne sais pas si vous aviez lu ça, mais c'est vrai que c'était assez dur. Il faut analyser ces déclarations et Mélenchon fait de la dialectique abusive et poursuit les lignes qui n'en sont pas. On sait que le coup d'État de 1973 avait pour but de renverser un pouvoir de gauche élu démocratiquement. On sait aussi que le putsch a été fomenté par les Américains, inquiets de voir une expérience démocratique leur échapper. Et Washington et les grands groupes industriels états-uniens était paniqué par Allende, qui était un homme respecté et admiré dans le monde entier, parce que c'était le promoteur d'une gauche démocratique qui pouvait enfin faire tache d'huile. Il n'a pas eu le temps. Hein. Ils ont donc accompagné, c'est un euphémisme, le coup de force du général Pinochet, les Américains évidemment. Jean-Luc Mélenchon fait référence aux Chicago Boys, comme ça, ce terme avait été donné à une école d'économistes chiliens du tout début des années 70, d'économistes formés à l'université de Chicago, qui était le siège du néo et de l'ultra-libéralisme, de Friedman par exemple. Ces économistes chiliens, financés par des multinationales américaines, ont établi le programme économique de Pinochet, fait de privatisation, de baisse d'impôts pour les riches, de dérégulation massive. Donc ces Chicago Boys ont été les concepteurs de ce qui fut appelé le miracle chilien. Miracle surtout pour les industriels américains du Nord et les familles les plus riches du Chili. Alors Friedman étant aussi l'inspirateur de Reagan et de Margaret Thatcher dans les années 80, est donc à l'origine du virage néolibéral des États-Unis et de l'Europe. Et voilà la tendance générale de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie. Alors Mélenchon conclut qu'Emmanuel Macron, régulièrement traité d'ultralibéral par la gauche de la gauche, est le digne descendant politique et le visage contemporain de Pinochet. En gros, tous ceux qui ne considèrent pas qu'il faille sortir du capitalisme sont des fachos. Un peu comme si, par un exercice de corrélation et de savante déduction, on en arrivait à conclure que Mélenchon était le fils caché de Staline. Bon, tout ce que je vous lis là est assez compliqué. Faut-il sauter, comme je le fais aujourd'hui, sur toutes les outrances du leader des insoumis? C'est pas sûr, parce qu'on se fatiguerait vite. Et c'est dommage, parce qu'il aurait autre chose à faire dans notre pays. Mais celle-ci avait, dans sa mécanique intellectuelle et son processus, un caractère d'étalon vif. Alors, méfions-nous un petit peu de Mélenchon, et pourtant, il est dans une place où il pourrait tellement nous aider. L'intelligence n'est pas toujours au service de ce qu'on attend d'elle. C'est dommage, hein ? Bon, ça, c'était un article de Libé, d'il y a une semaine à peu près. Musica. We'll be right back.
pas parce qu'on aime pas les gens qu'on doit aimer les chiens. C'est pas parce qu'on a mille pieds dedans qu'on doit y mettre les mains. J'ai mon orang-outan qui me lèche et me chatouille les reins, pendant que sa maman me sèche et m'essuie le bassin. Hey hop, hey hop. C'est pas parce qu'on aime pas le Coran qu'on doit finir chrétien. C'est pas parce qu'on est des connards qu'on doit devenir crétin. J'ai mon orang-outan qui grille sur mon vieux barbecue, pendant que sa maman s'étrille et se met au garde à vous. Hey hop, hey hop. C'est pas parce qu'on est pas bandant qu'on doit rougir d'être sain. C'est pas parce qu'on flingue ses amants qu'on doit se passer de câlin. J'ai mon orang-outan qui fond doucement sous mes papilles, pendant que sa maman se tombe pour devenir un gorille. Hey hop, hey hop. C'est pas parce qu'on aime pas les gens qu'on doit aimer les chiens. C'est pas parce qu'on a mille pieds dedans qu'on doit y mettre les mains. J'ai mon nouveau gorille qui me lèche et me chatouille les reins, pendant que le néant me sèche au fond de son bassin. Hey hop, hey hop. C'est pas parce qu'on enlève son gant qu'on doit serrer les mains. Et c'est pas parce qu'on monte au banc qu'on doit descendre à jeun. J'ai mon nouveau gorille qui grille son gras sous mes alouf, pendant que le néant m'étrille à mort et me rend louf. Hey hop, hey hop, hey hop, hey hop, hey hop, hey hop.
Hubert Félix Thiéphen avec le titre La philosophie du chaos, et vous écoutez Isabelle et l'émission Didi.
Alors on continue à dire, ça c'est le canard qui dit que le nucléaire met Macron comme chef de rayon. Macron n'a toujours pas digéré le vote des députés qui ont osé rejeter en avril dernier sa réforme du contrôle des installations nucléaires. Piqué au vif, le chef d'État a décidé de repartir à l'assaut du Parlement avec un nouveau texte, copie quasi conforme de la mouture retoquée. Il nous prend pour des idiots, hein. Au printemps dernier, l'Élysée avait tenté de profiter de l'examen d'une loi sur l'énergie pour démanteler l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui mène les expertises sur les installations et surveille un peu tout ça. Macron entendait confier l'essentiel des prérogatives de l'Institut à l'Autorité de sûreté nucléaire, ASN, qui joue le rôle de gendarme de l'atome. Officiellement, il s'agissait de renforcer la sécurité et de rationaliser les procédures pour accélérer la construction des nouveaux réacteurs de type EPR. Mais le paradis atomique promis s'est révélé pavé de mauvaises intentions. La réforme qui sera représentée au Parlement à la fin de l'année va ainsi éclater les compétences de l'IRSN. Par exemple, les ingénieurs qui travaillent sur la sûreté du nucléaire militaire ne rejoindront pas l'ASN, mais son équivalent au ministre des Armées, ce qui n'a rien à voir. Ils ne pourront donc plus partager les expériences avec leurs collègues ni profiter de leurs expertises, comme c'est le cas depuis des décennies. Donc, personne ne va surveiller. De même, toutes les activités commerciales menées aujourd'hui par l'IRSN seront abandonnées au profit du privé. Parmi elles, la surveillance de l'environnement autour des sites d'EDF ou la fabrication de dosimètres pour mesurer les radiations reçues. C'est d'autant plus finaux que les recettes de ce secteur alimentent le budget de l'IRSN à hauteur de 70%. Donc il n'y aura aucune surveillance puisque c'est fait entre eux. Expert atomisé. Mieux, le 8 septembre, le ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a opposé une fin de non-recevoir aux syndicats qui souhaitaient voir garantie l'indépendance des experts chargés de rédiger des avis scientifiques remis aux 5 commissaires de l'ASN nommés par le pouvoir politique. Alors demain, les 5 patrons de l'autorité de sûreté auront ainsi sous leur autorité directe des chercheurs chargés de définir si un réacteur peut continuer de tourner en toute sécurité ou doit être mis à l'arrêt. Ce qui est tout à fait contraire aux règles de déontologie qui font consensus au plan international. Ce n'est pas aux gens de l'intérieur de dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Il faut garder un contrôle. Mais voilà. Les représentants du personnel s'alarment, mais on se moque d'eux. Alors, c'est une affaire à suivre parce que c'est quand même fichtrement important. Musica. Je pense...
Elle dit, Christophe sur les ondes de Radio Escapade, vous écoutez Didi en compagnie de Isabelle.
Il continue à dire, hein. Il dit c'est de la com et du bidouillage. Bon, tout ça c'est pour parler des droits des femmes. La vice-présidente du Sénat, Laurence Rossignol, dénonce une politique fondée sur les effets d'annonce et exhorte le gouvernement de tirer des leçons du rapport de la Cour des comptes. Voilà l'histoire. Pour l'ancienne ministre des droits des femmes, Laurence Rossignol, le rapport de la Cour des comptes paru jeudi dernier, c'était le 15 septembre, ou par là en tout cas. Eh bien, j'ai perdu le fil de mon texte. Le rapport de la Cour des comptes étrille la politique concernant l'égalité homme-femme. Et donc, ce qui est noté, et même détaillé, ce que nous savons, mais qui nous désole en tant que militante féministe, c'est que cette politique est un empilement d'annonces, c'est de la com de bidouillage, et il n'y a pas de suivi, et tout ça n'est pas fait sérieusement. On semble considérer que les effets d'annonces suffisent à faire une politique publique. Ça, c'est du tout Macron. Pendant 5 ans, on a eu une pluie d'annonces et de mesures. On finissait par ne plus réagir. Quand les journalistes nous appelaient pour recueillir notre sentiment, on préférait attendre de voir comment les annonces allaient se traduire. Donc 80% du travail d'un ministre, c'est du service après-vente de ce que l'on fait. Et comment on met en place, comment on lève les obstacles Et on ne voit ici ni culture de l'évaluation, ni culture du résultat. Donc c'est vraiment la catastrophe. Et c'est vrai qu'on peut toujours parler de politique volontariste en matière d'égalité homme-femme, mais dans le contexte de prise de conscience sociétale, on peut pas dire qu'on soit dans les premiers. Hein. Ce qui aboutit à tout ça, c'est notamment une volonté de rupture depuis 2017, donc depuis l'arrivée de Macron, qui s'est traduite par l'abandon des plans triennaux. Elle a mis en place le 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Je parle toujours de Laurence Rossignol. Et depuis une quinzaine d'années, on fonctionnait avec ces plans. La majorité changeait, mais les ministres en charge de l'égalité femmes-hommes travaillaient à partir du plan de la prédécesseuse ou des prédécesseurs, je ne sais pas comment on dit. On aurait dû mettre en place le 6e plan triennal en 2020. Mais Macron se fout des femmes et ses plans n'avaient pour lui aucune utilité puisqu'ils permettaient un exercice obligatoire d'évaluation du plan précédent avec la nécessité de partir de ce qui avait été fait, de ce qui avait été réussi, de ce qui avait échoué, etc. Seulement, depuis 2017, le macronisme étant l'an 1 de tout, y compris de la lutte contre les violences faites aux femmes, eh bien, il y a eu une rupture dans la continuité et on a abandonné les plans. Merci Macron. Bon, j'espère que vous écoutez, vous les femmes, hein, parce qu'on est autant que d'hommes, donc il faudrait peut-être qu'on appuie un peu sur les points qui nous font mal. Le manque d'argent et la moindre mobilisation de la société française dans ces années d'avant MeToo, c'est également ce qui est troublant à la lecture du rapport du Sénat. Le Sénat étant composé de quelques vieux messieurs. Depuis 2017, on a vu une telle mobilisation de la société, il y a eu une telle exposition de la question des violences faites aux femmes, un tel progrès dans la compréhension collective de ce sujet, le tout assorti de moyens supplémentaires, paraît-il. Comment se fait-il que nous n'ayons pas davantage de résultats ? Eh bien, il y a tout de même des points positifs dans ce rapport sur des éléments quantifiables et matériels, notamment en matière de violences conjugales. Bien qu'il y ait toujours, je ne sais pas, une femme tuée tous les 3 jours, hein, c'est horrible. Il y a, paraît-il, des bracelets anti-approche. Je ne vois pas l'efficacité, parce que si tu n'approches pas plus de 3 mètres, effectivement, mais tu approches quand même. Hein. La mise en place des téléphones grand danger, il faut y répondre. Les places en hébergement qui n'existent pas. Alors il faut faire plus, il faut repartir dans la continuité, une évaluation des politiques publiques, lancer des études d'impact des besoins de ce qui va être. Oui, il faut, mais il faut également renforcer le service des droits des femmes, qui est vraiment le parent pauvre de l'administration française. Et enfin, renforcer la coordination interministérielle. Surtout, ce rapport peut être lu comme un guide de bonne pratique à l'attention de la ministre déléguée en charge. Je dirais même que c'est un outil de travail formidable, mais il faudra donc voir avec quelle attention il sera lu à Matignon. Car le choix d'Emmanuel Macron de placer l'égalité au sein d'un ministère délégué auprès de la première ministre ne doit pas seulement être un effet d'affichage, mais comme elle a tellement de trucs à faire, elle va me laisser ça dans un coin de son bureau. Un ministère délégué auprès de Matignon est supposé bénéficier d'un appui, d'un investissement supérieur ou d'un suivi politique de la première ministre. Qu'auparavant, Édouard Philippe et Jean Castex n'aient pas été passionnés par le sujet des femmes, ce n'est pas une surprise. Mais pour Elisabeth Borne, ben là, il y a un véritable défi. Et pour l'instant, elle ne l'a pas relevé. Alors, je ne sais pas, il va falloir manifester de nouveau. Musique.
Pour partir, il faudrait qu'on fasse un truc plutôt un truc où on puisse taper dans les mains, chanter tous ensemble, un truc gay, quoi. Enfin, un truc triste. On pourrait faire un gospel, par exemple. On pourrait faire un gospel. Si, c'est gay le gospel. C'est vrai, c'est un peu comme le blues, un petit peu. Sauf que, comme disait mon pote Larsen, le gospel, ça parle du petit Jésus. Alors que le blues, ça parle du gros Jésus. C'est un petit peu là, c'est ça la différence. Oui, c'est vrai que le gospel, ça parle du... Oui, c'est religieux. Et c'est un petit peu embêtant parce que je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas. Il en reste. Et du coup, ils peuvent se sentir un petit peu exclus. Hein. C'est vrai, quand on joue un gospel, ils peuvent avoir moins envie de chanter que les autres. Mais ça, c'est un gospel pour tous. Vous voyez, c'est un gospel, encore une fois, fédérateur. Quelles que soient vos convictions religieuses, vous pouvez chanter ce gospel avec nous. C'est un gospel pour être unis. Ça s'appelle « La messe est dite ». Et si vous voulez chanter le refrain avec nous, c'est « Pourquoi l'appeler au secours si Jésus crie, c'est qu'il est sourd ?» Vous êtes prêts, monsieur Guéry ? Durant bien des années, j'ai prié Jésus-Christ. Alléluia. J'ai prié Jésus, même voilà bien Marie. Alléluia. Sur les genoux, je tombais en supplication. Alléluia. Je n'ai toujours pas d'accusé de réception. Alléluia. Pourquoi l'appeler au secours? Alléluia. Si Jésus crie, c'est qu'il est sourd. Alléluia. Jamais un signe ne serait-ce qu'une fois. Alléluia. Je l'ai tant prié que j'en ai perdu la foi. Alléluia. Je me suis lassé du silence des chapelles. Alléluia. Un véritable ami répond quand on l'appelle. Alléluia. Pourquoi l'appeler au secours? Alléluia. Si Jésus crie, c'est qu'il est sourd. Alléluia. 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 Priez sans moi tous vos amis imaginaires. Alléluia, je choisis la position du démissionnaire. Alléluia, je ne me gargarise plus à l'eau bénite. Alléluia, que Dieu me garde loin de lui, la messe est dite. Alléluia, pourquoi l'appeler au secours? Alléluia, si Jésus-Christ, c'est qu'il est sourd. Alléluia, pourquoi l'appeler au secours? Alléluia, si Jésus-Christ, c'est qu'il est sourd. Alléluia. Courbé devant la croix, j'ai prié pour des clous. Alléluia. Dieu devrait rembourser les pigeons qui le louent. Alléluia.
Nicolas Moreau et Mathias Guéry, la messe est dite.
Ah, la messe n'est pas terminée, les amis. On va chaque semaine désormais parler de changement climatique parce que j'ai le sentiment qu'on se couvre les yeux et les oreilles pour ne pas y croire. Cela nous dérange dans notre confort quotidien, l'avenir est incertain, l'homme n'aime pas ça, la femme non plus d'ailleurs, mais peut-être que le savoir va nous aider à affronter ce qui risque d'être le grand problème de notre avenir, le grand conflit en tout cas. On ne devrait pas s'en étonner, c'est notre inconséquence, notre légèreté, notre aveuglement qui provoque cette situation, c'est universel sur la Terre. Qui s'y est-il préparé? Je ne sais pas. Mais je sais que cela arrive comme une grosse vague qui va nous surprendre. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux qu'on y pense et qu'on s'y prépare. C'est tellement facile de fermer les yeux, les oreilles, comme fait notre gouvernement. Tu parles d'un gouvernail. Droit dans le mur. Il multiplie les vols en avion, les voyages à travers le monde. Il favorise les jeux plutôt que d'aider les travailleurs pauvres, que chacun ait un toit et n'ait pas faim, que l'école fonctionne, que les étudiants qui sont notre avenir n'aient pas faim et aient un toit à eux aussi le temps de leurs études, que les étudiants en médecine soient aidés pendant les 10 ou 12 ans d'études où ils sont maltraités. Ce ne sont pas les politiques qui doivent toucher 15 000 euros par mois. Quelquefois toute une vie d'ailleurs. Ce sont les instits, les profs, les médecins, les infirmières et tous les artistes sans qui la vie est terrible. Ce sont les ouvriers qui créent les richesses, pas les patrons. Et leurs mères qui portent les enfants et les élèves. C'est parce qu'on a fait tout à l'envers qu'on va droit dans le mur. Alors on va se préparer ensemble à y réfléchir. Le but d'une vie, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de vivre. Et si nous réfléchissons tous ensemble à ce qui nous arrive maintenant, pas dans 10 ans, comme dit Macron, c'est aujourd'hui qu'il faut bouger et inventer un autre monde de vie. Il nous faut freiner, parler, partager les idées et la société. C'est nous, c'est vous, nous ne sommes pas un troupeau obéissant comme le pensent nos gouvernants. Nous sommes des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants avec chacun un cerveau. Imaginez, on allume tous nos cerveaux plutôt que nos portables. Alors on va trouver des solutions. Et la radio va nous servir de lien. Si l'aventure vous intéresse, si vous êtes assez lucide pour comprendre qu'il y a urgence, alors Didi, cette émission de Radio Escapade, vous est ouverte pour exprimer vos idées. Les Cévenols sont depuis longtemps des résistants. Ne nous laissons pas endormir par les politiques qui ne pensent qu'à leur nombril et leur pouvoir, tout en sachant qu'ils ont l'argent et le pouvoir de fuir ailleurs. Mais où ? Les Cévennes sont un pays de résistance, alors je vous propose de réfléchir, de chercher ensemble comment on peut, avec solidarité et imagination, survivre à la crise climatique et sociale qui se prépare. Et si vous voulez en parler, Didi vous est ouvert le mardi de 11 à 12. Soyez les bienvenus, les amis. On va essayer de changer les choses. Mouzeka. Digital.
Björk avec le titre Ovule. Vous écoutez Isabelle et l'émission Dididi.
Bon, on ne va pas se quitter sans parler un peu de quelques artistes. Il y a une très belle exposition Germaine Richier à Montpellier. Et l'ange gardien de Germaine Richier, en l'occasion, c'est Maud Marot Wojcicki, qui a monté l'exposition rétrospective au musée Fabre, en collaboration avec le Centre Pompidou de Paris. C'est un événement qui attire à peu près 500 visiteurs par jour, et c'est à voir jusqu'au 5 novembre. Alors, cette jeune femme, qui est revenue comme conservatrice de ce très bel endroit, qu'est le musée Fabre à Montpellier, eh bien, c'est son tout premier poste après de brillantes études à l'école du Louvre. Elle dit que Germaine Richier l'a émue et en lisant sa correspondance, elle a découvert un personnage solaire qu'elle aurait bien aimé rencontrer. Donc on pourra peut-être trouver sa correspondance aussi. Et quand on lui dit que l'expo de Montpellier est souvent préférée à celle de Paris, la jeune femme sourit. Elle dit « Une exposition est réussie quand elle suscite de l'émotion et de la réflexion ». Voilà, c'est la troisième grande exposition après United States of Abstraction et Jamel Tata. Eh bien, en janvier, elle s'attaquera à un autre sculpteur, c'est Tony Grant, qui est né en Camargue, qui est membre du mouvement artistique Support Surface, qui est mort en 2005. Ça va être tout à fait différent de Richier, mais ça promet d'être aussi une très belle expo dont on parlera certainement. Et pour continuer dans cette promenade avec les artistes qui fait du bien, quelle que soit la saison, le moment et tout, on a besoin des artistes tout le temps parce que la vie est trop difficile, trop compliquée, trop violente. Voilà, il y a donc une exposition Georges Braque qui est l'œuvre graphique d'un homme fantastique. C'est à l'occasion des 60 ans de la disparition du maître de l'art moderne et inventeur du cubisme. Il a inventé le cubisme avec Picasso. Et c'est au musée Pierre-André Benoît, au musée Pab, à Alès. Il y a des créations sur papier, des dessins au fusain, au pastel, des estampes. Et la plupart sont réalisés pour des livres de peintres. En général, souvent, c'est réalisé avec Pierre-André Benoît, qui a été celui qui a donné son nom à ce musée d'Alès et qui a été un technicien fantastique, un champion des pointes sèches, des eaux fortes, des lithographies plutôt, et des gravures sur bois. Voilà les amis, ça c'est jusqu'au 29 octobre, vous avez encore un peu de temps. Ne manquez pas de vous faire plaisir au cinéma aussi. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais peut-être si on avait une petite place pour Gonzalez, ne serait-ce que pour le début, s'il te plaît, Fabien. Bon, d'accord, c'est pas grave. Alors, je vais dire un petit mot de tous les jours, un petit mot de chacun son tour, un petit mot pour dire bonjour en chinois, comme on dit ça, ni tao. En espagnol, on dit ça aussi, buenos dias. En zoulou, on dit comme ça, zaoubona. En arabe, on dit comme ça, salam alaikum, malaikum salam. Et pour finir, tu peux le dire avec un sourire. Un sourire, c'est joli, non? Pour finir une émission. Bon les amis, on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine. Peu importe si tu ne trouves pas cette fois, ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup en tout cas de faire la technique, c'est pas facile. Avec moi. Fabien, je te laisse l'antenne.
Je vous French kiss avec la langue de Molière. Ça vous excite. Quand je vous baise dans l'oreille, je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français, je prononce les R. Éclair, tonnerre, pomme de terre. Je lis dans mon lit, je suis littéraire. Je lis Carrère, j'écoute Macala, oui. Je mange du camembert, je fume du cannabis, c'est mon somnifère. Blablabla, bla, bla, etc. Patati patata, je viens du Canada, hey. J'aime les castors, mais à la frontière, je suis franchouillard, check mon passeport. Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolay. Je raconte triolet. Votre langue est intimidante, ok? C'est en français que Chili chante, ok? Ça m'a pris longtemps. Beaucoup de romans, beaucoup de films, dis mon temps. avec mon petit accent si charmant. Et je comprends que je manque de maîtrise, mais heureusement, j'assume mes bêtises. Votre passé simple n'est pas si simple, le mien est compliqué comme un labyrinthe. Yes. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert, je préfère lire des pentes. Yes. Beaucoup trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans, mais je vous French kiss comme un vrai Céfran. François Mitterrand. Je vous French kiss avec ma langue française. Je vous French kiss en dansant la javanaise. Bien dans mes charentaises, en robe de chambre, comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bagalter. Je vous French kiss éclair au chocolat. Je vous French kiss. Pomme de terre en robe de chambre, en robe de chambre comme Robespierre. Je vous French kiss. L'hexagone, l'hexagonzales, Chili Gonzalexagone.